Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
L'envie d'en faire un gîte a dû naître en mai 2018, mai-juin. Et j'ai fait donc, des recherches pour voir si je pouvais faire un stage, une formation porteur de projet de gîte chambre d'hôte. Et surtout si je pouvais utiliser mon CPF. Et ça, vraiment, ça a été un élément déclencheur pour aller jusqu'au bout.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, Nathalie nous explique comment un projet immobilier personnel de construction d'une maison en fuste a fait grandir l'envie d'en faire un gîte écologique perché sur les hauteurs du Lot. Plusieurs années de travaux ont permis de révéler tout le potentiel de la maison et Nathalie a mis en place toute une stratégie pour en faire un hébergement insolite. Ouvert depuis mai 2020, le perchoir du Quercy n'a pas encore soufflé sa première bougie et malgré le contexte, cette première saison d'activité est très encourageante. De toute façon, Nathalie a décidé de vivre sa vie sans aucun souci. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Place à l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Nathalie.
Et bonjour Laura.
Bienvenue dans les Clés du Gîte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et c'est un plaisir pour moi.
Alors, nous sommes voisines hein, de quelques kilomètres. Tu es la propriétaire du gîte Le Perchoir du Quercy, dans le Lot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter, s'il te plaît?
Alors, je vais commencer par moi. Donc, moi, c'est donc Nathalie Maillonnat. Je suis mancuquoise, je suis mancuquoise d'origine, de toute façon. Alors, du coup, l'histoire de notre gîte, elle est un peu particulière parce que le projet, il est né plus dans la tête de mon mari. C'était un petit peu son rêve que de construire une maison en fuste. On avait découvert ce style de construction chez des amis, en fait. Et voilà, il est tombé, il a eu le coup de cœur et il s'est dit un jour, j'aimerais faire une maison en fuste. Donc, le projet, en fait, il l'a plus ou moins lancé il y a, on va dire, 8 ans. Je suis remontée en arrière pour essayer de retrouver l'historique. Mais le premier contact qu'on a eu avec le fustier, il remonte à 2012. Donc, ça fait 8 ans.
L'idée était déjà de créer un gîte ou vous imaginiez juste un projet de création de maison?
Voilà, c'était vraiment plus Donc au-delà du rêve, c'était de faire un investissement immobilier pour anticiper notre retraite, hein, puisque mon mari est un artisan. Voilà, c'est des choses qu'il faut préparer en amont. Et du coup, c'était pas du tout, en fait, on n'avait pas vraiment d'objectif quant à l'occupation de la maison. Ça serait pour nous, ça serait pour les amis. Enfin voilà, on n'avait pas du tout réfléchi à ça. Et moi, je t'avoue qu'en fait, je suivais le projet de très loin parce que j'étais très impliquée dans mon travail et j'étais pas du tout disponible pour m'investir par ailleurs. Donc en fait, si tu veux, bon, le projet a démarré. On a eu beaucoup. Mon mari a mis beaucoup de temps à trouver le terrain qui pourrait recevoir ce type de construction. Une fois qu'on l'a trouvé, donc en fait, on a eu la chance parce que on en a trouvé un juste à côté de chez nous. Donc ça, c'était vraiment un gros plus pour pouvoir suivre les travaux. Il est situé à 500 mètres de notre maison. Et du coup, donc après ça a été la recherche. Après la recherche du terrain, ça a été le prêt, ça a été l'obtention du permis de construire. Ça a été très 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 long.
Parce que c'était un projet atypique.
Oui, et en fait, c'est un type de construction qui n'est pas courant dans le Lot.
Peut-être qu'on peut préciser un tout petit peu pour ceux qui connaissent pas. Donc, ce sont des rondins de bois, si je me trompe pas. Et le perchoir donc tient son nom parce que c'est une maison en suspension sur pilotis. C'est bien ça?
En fait, c'est exactement ça. C'est vraiment l'architecture qui nous a inspiré pour le nom du gîte. Voilà. Elle est sur pilotis parce qu'en fait, on voulait vraiment éviter de dénaturer le terrain. Voilà, on voulait garder vraiment la structure du terrain et du coup on l'a faite sur pilotis. Voilà, de cette façon, elle est juste posée sur le terrain parce que le terrain étant en pente. Voilà, c'est l'artisan qui nous l'a faite. Il habite dans le Lot, c'est un Lotois, et en fait il travaille qu'avec une tronçonneuse. Voilà, donc en fait, il a fait toute la maison à l'aide de sa tronçonneuse et de la grue pour monter les rondelles. Voilà. Il travaille tout seul.
Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de colle, de produit ou quoi que ce soit.
Il y a juste en fait l'isolation entre chaque rondelle, qui peut être faite en laine de mouton. Bon, nous, on a préféré une isolation, je crois que c'est du... Je ne sais plus ce que c'est exactement d'ailleurs. Mais enfin bon, ce n'est pas de la laine de mouton. Vis-à-vis de la RT 2012, voilà, on voulait s'assurer quelque chose de conforme en fait.
Vous aviez à cœur de faire quelque chose le plus écologique possible, il me semble.
Oui, quand on choisit de faire une maison en fuste, de toute façon, c'est que déjà à la base, on aime les choses naturelles. Voilà, c'était ça, pour nous, ça coulait de source. Après, c'est vrai que nous, personnellement, on est quand même très attentif à tout ce qui est écologique, éco-responsable, voilà. Donc, on ne s'est pas vraiment posé la question. Pour nous, c'était naturel, en fait. Voilà. Bon, après, on a joué le jeu jusqu'au bout, je dirais, mais parce qu'aussi, le constructeur, il est dans cette démarche-là. Donc finalement, en fait, c'est lui qui nous a embarqué aussi dans le côté écolo. Voilà. Il a utilisé vraiment le maximum de bois. L'architecte est un écolo militant. Donc voilà.
D'accord. Quand vous avez conçu la maison, donc c'était à titre personnel, il n'y avait pas l'aspect maison d'hôte. Est-ce que tu l'as imaginé... Non, comment je pourrais dire ? Est-ce que tu l'aurais imaginé différemment si tu avais de suite eu l'intention d'en faire un gîte ?
Oui, je pense. En fait, il y a des côtés, des aspects qu'on n'avait pas anticipés. Du coup, il nous aurait fallu une pièce en plus pour le socage, Et du coup, ça, c'est vrai qu'on l'aurait réfléchi différemment, c'est sûr. Mais bon, ça, ça ne gâche en rien. Enfin, je veux dire, le gîte, il est comme il est super quand même. Mais il y a des aspects, oui, je dirais pratiques, qu'on aurait anticipé si on avait eu dès le départ pensé au gîte, quoi. Il y a des choses qu'on a pu rectifier pendant les travaux, parce que comme les travaux ont duré longtemps et que l'envie d'en faire vraiment un gîte, je dirais une activité professionnelle est née, du coup on a rectifié des choses, oui. On a modifié des choses.
Et elle est née comment, cette idée, alors ?
Alors, pour reprendre un petit peu mon parcours professionnel, donc moi j'ai fait des études de compta, et donc j'ai pratiqué pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte de vente à domicile comme manager. Et donc c'est là que je me suis vraiment beaucoup investie, au point de m'en fatiguer. Et du coup, quand les 10 ans ont été passés, c'est comme si je pense que j'ai une rotation dans ma vie professionnelle tous les 10 ans. J'avais envie d'autre chose, voilà. J'avais envie de quitter mon travail pour faire autre chose. Et puis en fait, quand la maison a commencé à être bâtie sur notre terrain, parce qu'en fait, il faut savoir que le fustier construit la maison dans son atelier, ensuite il la démonte et il la remonte sur le terrain définitif. Et donc, il y a 2 ans, quand il a commencé à la remonter, j'ai vraiment réalisé que ça allait être vraiment un truc... quand même assez grand, et j'ai réalisé en fait le potentiel que cette maison pourrait avoir en tant que gîte, parce qu'elle était bien située, avec une super vue sur la campagne et sur le village, elle était pas loin de chez nous, enfin voilà, en tout cas il y avait beaucoup d'atouts, et en fait c'est là qu'est né le projet, voilà, donc je dirais il y a 2 ans à peu près, c'était en 2018.
D'accord. Alors, l'investissement que vous avez fait pour pouvoir créer la maison, il n'était pas tourné... je ne sais pas, est-ce que vous avez fait appel à une banque ? Est-ce qu'il y a eu un emprunt pour cette...
En fait, on a fait un apport personnel, on va dire. On a fait un tiers de la banque, 2 tiers perso. Mais en fait, comme on n'avait pas vraiment de finalité pour cette maison, en fait, y a plein de choses forcément qu'on n'avait pas fait chiffrer. Toute la partie forcément exploitation du gîte, je dirais, les literies, le linge.
Parce que ce n'est pas un emprunt professionnel. L'idée n'était pas de rembourser l'emprunt avec les revenus de la location, du moins au départ.
On avait le crédit de notre maison perso qui s'achevait, et on s'est dit, on va reprendre un crédit du même montant, puisque voilà, c'était confortable pour nous, et ça sera le maximum qu'on mettra au niveau crédit dans la maison. Donc en fait, non, c'est pas un crédit professionnel, on l'a pris à titre perso. Donc après, l'avantage du fait que les travaux aient duré pratiquement 2 ans de plus que ce qu'on avait prévu, ça nous a permis d'autofinancer tout ce qui dépassait, quoi.
Parce que vous n'aviez pas pu appréhender tout ce que ça impliquait.
Non,
pour une ouverture de gîte. Au moment où vous avez pris la décision d'en faire un gîte, est-ce que tu as fait le choix de te former ?
Oui, tout à fait. En fait, comme je te disais... l'envie d'en faire un gîte a dû naître en mai 2018, mai-juin. Et j'ai fait des recherches pour voir si je pouvais faire un stage, une formation porteur de projet de gîte aux chambres d'hôtes. Et surtout si je pouvais utiliser mon CPF. En fait, j'ai fait pas mal de recherches et il se trouve que j'ai fini par trouver une formation. Près de Toulouse, en fait, vers Carcassonne, parce que je ne voulais pas aller à l'autre bout de la France. Et ça, vraiment, ça a été un élément déclencheur, pour aller jusqu'au bout. Je pense que si j'avais pas fait cette formation, j'aurais pas eu la confiance voilà, que j'ai eue en sortant de cette formation. Donc en fait, c'est un propriétaire de chambre d'hôte qui fait ses formations. Ça s'appelle AFEST Formation. Et donc lui, il a une expérience de 10 ans dans le domaine. Et donc la formation durait 4 jours et on a vraiment abordé tous les aspects pratiques, juridiques, financiers, l'organisation, la communication. Voilà. Donc là, je suis repartie vraiment avec beaucoup d'outils et notamment quelque chose que je n'avais pas vraiment eu l'idée de faire. Pourtant, je suis comptable de formation. C'est un business plan. Donc ça, voilà, je l'ai fait assez rapidement suite à la formation. Donc j'ai essayé de faire une étude de marché, mais pour moi ça a été compliqué parce que il n'y a pas d'équivalent dans les environs. Une maison en fuste, alors soit j'avais des cabanes, mais bon, notre gîte c'est pas une cabane. Donc soit c'était des maisons traditionnelles en pierre, voilà. Donc bon, j'ai essayé de faire un mix des deux pour me faire mon étude de marché. Et ensuite, j'ai fait mon business plan et vraiment ça m'a stimulée. Voilà, ça m'a réconfortée, ça m'a donné confiance parce que évidemment, il fallait quand même que ce projet soit viable financièrement et que j'arrive à me sortir un salaire raisonnable.
Oui, ça te permettait de définir le cadre et ainsi d'avancer avec une meilleure visibilité et j'imagine de te rassurer sur l'avenir.
Parce qu'il fallait que je quitte mon travail, absolument. C'était une question de vie ou de mort, mais presque.
Et dans ton prévisionnel, tu arrivais à dégager un salaire dès le début ?
Oui. Bon, après, c'est vrai que moi, j'avais lancé mon prévisionnel avec un démarrage en janvier et vraiment eu un début d'activité en avril. Donc, il y avait les 3 mois, un petit peu où il fallait avancer au niveau de la trésorerie. Mais finalement, j'ai démarré cette activité, réellement en mars 2020, donc les événements ont fait que finalement mon business plan il était un peu réaliste puisque je me suis pas trop trompée au niveau du prévisionnel, donc ça c'est je suis assez contente quoi.
Comment tu as fait la définition de ta grille tarifaire ?
Alors ça oui c'est pas un point facile hein. Ça a été assez fastidieux parce que notre produit est quand même assez spécifique, donc on l'a équipé avec des équipements quand même d'un certain standing, donc je savais que je pouvais tabler un certain tarif, mais ma plus grosse hantise c'était que je me trompe au niveau des tarifs et que j'ai pas de réservation parce que ça serait trop cher quoi. J'ai revu mes tarifs parce que dans mon premier business plan j'avais un peu tablé un peu trop, enfin je pense trop, je l'ai aussi montré autour de moi, enfin des personnes qui ont l'habitude de louer, j'ai essayé d'avoir leur ressenti. Je me suis quand même pas mal alignée sur des gîtes qui me semblaient à peu près d'un standing équivalent dans les environs. Comme j'ai eu, les réservations ont quand même pas mal fonctionné cette année, je me dis que je me suis pas trompée. Pour moi, je suis un peu en dessous de ce que le gîte vaut. Mais bon, comme c'est le démarrage, on va y aller doucement.
Peut-être qu'il y a une phase de lancement pour ensuite atteindre effectivement des prix qui sont à tes yeux plus cohérents avec l'offre. Est-ce que le gîte est référencé sur des plateformes de réservation ?
Alors, donc oui, je l'ai en premier lieu mis sur Abritel et sur Airbnb. Donc ça, c'était le 1er mars. Donc en me disant que voilà, il fallait absolument qu'il soit visible avant, enfin, au moment où les gens réservent leurs vacances d'été, quoi. C'était mon objectif. Et donc j'ai eu ma première réservation grâce à Britel une semaine après l'avoir mis en ligne. J'étais contente. Je suis référencée aussi donc sur l'office du tourisme. Ça a été dans un second temps. Et ensuite, donc, il y a eu le premier confinement. Et là, je me suis dit, tu vas profiter de ce temps pour créer le site. Donc, j'ai créé mon site avec Wix. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais bon, parce que je suis aussi quelqu'un de très, d'assez perfectionniste. Donc, voilà, il fallait que ce soit, que ça ressemble à l'idée que je m'en étais faite au départ. Je ne sais pas bâcler les choses, en fait. Je peux pas, voilà. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, ça m'a pris un mois. En y passant 5 jours sur 7. Mais voilà, donc j'ai eu mon site et j'ai pris un abonnement chez Eloa. Donc Eloa, c'est un channel manager. C'est une plateforme de réservation, en fait. Et ce qui me permet d'avoir que les gens puissent réserver directement en cliquant sur réserver, voilà. Et là, il y a un mois, j'ai quitté Eloa et je suis passée chez Aminities. Donc c'est l'équivalent, mais pour moi, en mieux.
D'accord. Et je pense que, si je ne me trompe pas, tu t'es fait très récemment certifié par Gîtes de France.
Alors, pas Gîtes de France. J'ai fait la demande de classement au mois de mars, puisque maintenant, dans le Lot, l'Office du tourisme est la qualification pour faire les classements. Puisque effectivement, jusqu'à l'an dernier, il n'y avait que Gîtes de France dans le Lot qui avait la compétence pour le faire. On pouvait aussi faire appel à un organisme extérieur. Et donc oui, j'ai fait cette demande au mois de mars et j'ai eu la visite la semaine dernière. Donc j'aurai bientôt, en principe, 4 étoiles.
Félicitations.
Il faut juste que je mette 2 patères dans la salle de bain, un miroir sur pied, et un adaptateur pour les prises étrangères. Voilà, c'est tout ce qui me manquait pour bénéficier de la 4e étoile.
Est-ce que tu as trouvé le cahier des charges contraignant ou plutôt pertinent ?
Je trouvais que c'était non pertinent, oui. Alors, en fait, le cahier des charges, la grille, j'en avais eu connaissance il y a presque 2 ans, en fait. Donc il y a pas mal de choses que j'avais du coup rajoutées sur la liste des équipements pour anticiper ça, quoi.
À tes yeux, est-ce qu'il est indispensable d'être affilié à un label ?
Indispensable, non, puisque moi je suis pas affiliée, je suis affiliée à aucun label pour l'instant et ça m'a pas empêché d'obtenir des réservations. Pour moi, le label, ça représente plus une reconnaissance. Donc, au début de mon projet de gîte, en fait, j'avais fait des recherches par rapport au label, mais plutôt au label environnementaux, en fait. Donc, je m'étais un petit peu penchée sur la clé verte, Éco-Gîte. Donc, Éco-Gîte, c'est Gîte de France. Et sur le label éco-label européen. Mais donc j'en avais retenu qu'un, c'était la clé verte. Mais en fait, c'est quand même un investissement financier. Et voilà, après c'est une démarche. Je suis encore en réflexion. Du rapport surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Enfin voilà, moi j'aime bien retrouver le rapport gagnant-gagnant. Donc, qu'est-ce que réellement va m'apporter le label? Voilà, je suis encore en train de réfléchir par rapport à ça, en fait, si je passe le pas.
Est-ce que dans la rédaction de ton business plan, tu avais anticipé les frais de référencement auprès des plateformes de réservation, d'affiliation à un label quelconque, justement?
Oui, tout à fait. Oui, ça, c'était bien intégré. Dans mon plan de financement, d'ailleurs, à titre de... j'avais été assez prudente et j'avais considéré que toutes mes réservations viendraient de plateformes style Airbnb ou Abritel. Et du coup, mes frais étaient assez élevés, quoi. Moi, j'ai essayé de faire en sorte de... Enfin, que mon tarif sur ces plateformes de réservation, il soit quand même au-dessus de mon tarif en direct. Enfin, c'est un peu l'intérêt. Si les gens y réservent en direct, c'est d'économiser les frais. Donc.
Bien sûr, pour compenser la commission que prennent tous ces partenaires.
Voilà. Mais finalement, en fait, pour revenir à ma première saison, j'ai eu 75% de mes réservations qui sont arrivées en direct. Et donc, les gens m'ont bien vu sur les plateformes de réservation, donc surtout à Britel et Airbnb. Un petit peu Booking, très peu. Et donc, 75% d'entre eux m'ont téléphoné pour réserver en direct. Et leur premier argument, c'était pour économiser les frais.
D'accord. En fait, ils t'ont repéré sur les autres plateformes, mais ensuite font l'effort de te contacter en direct pour pouvoir faire un contrat avec toi.
Et, ça faisait partie des choses que j'ai appris pendant cette formation. Et donc c'était une priorité vraiment. Donc les OTA, c'est plus de la visibilité en fait. C'est eux qui nous montrent et après, donc l'objectif c'était que les gens ils puissent me trouver. Donc d'où aussi l'importance d'avoir un nom spécifique. Pour que les gens, en fait, en tapant le nom sur un moteur de recherche sur Internet, ils arrivent à retrouver, donc moi, le perchoir du Quercy, quand on tape le perchoir du Quercy sur Google, on va retrouver ma page Facebook, on va retrouver mon compte Google. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai créées assez rapidement, un compte Google Business. Et ils trouvent après, ils me trouvent sur le site l'Office du Tourisme, pardon. Le choix du nom est très important. Et ce nom-là, il faut le mettre, l'évoquer plusieurs fois dans l'annonce, en fait. Plus que dans le titre, même dans l'annonce, de façon à ce que les gens comprennent bien que c'est le perchoir du Quercy.
Dans ta communication, tu as choisi... Déjà, est-ce que c'est toi qui t'en occupe ou est-ce que tu as délégué cette partie ?
Oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà, tant que je m'en sens capable, je le fais. Donc après, bon, là, qu'est-ce que tu appelles par communication ?
Alors c'est vraiment pour moi la publicité. Est-ce que tu as fait des démarches pour contacter peut-être des magazines locaux ou même plus grands ? Ou est-ce que pour l'instant, c'est plus sur les réseaux sociaux que tu mises d'être présente?
Oui, donc les réseaux sociaux, c'est de façon très régulière. J'avais pas budgétisé en fait de communication, comme tu dis, annonce. Par contre, donc au printemps, j'ai eu la visite du Petit Futé. Donc, j'ai un article dans le Petit Futé du Lot.
Et ce sont eux qui t'ont démarché ?
Oui, en fait, ils faisaient un petit peu le tour dans mon CUC, en fait, des nouveaux commerces. Ils sont aussi allés à la mairie, je crois. Et donc, j'avais déposé des cartes de visite à la librairie de mon CUC. Et en fait, là, elle a pris ma carte, la journaliste, et du coup, elle m'a appelée, elle est venue voir. Donc, elle a fait un article. Et après, elle m'a proposé de la communication. Donc, dans leur guide sur Internet.
Un référencement payant ?
Oui, tout à fait. Et j'ai accepté, mais franchement, je regrette. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas de retour et ça représente quand même une belle somme par rapport à mon gîte, quoi. Enfin, voilà. Je trouvais ça un peu disproportionné. Elle a su me convaincre. Je suis assez facilement, quoi. Je suis facile à convaincre. Et du coup, j'ai accepté. C'était une offre spéciale confinement à 50%. Bon. On va dire que la nana, elle était très bonne commerciale, quoi. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Enfin, quand je regarde le nombre de clics qui viennent depuis le petit, j'en ai pas. Donc bon, j'ai retravaillé mon annonce là cette semaine justement pour voir si ça changerait un petit peu. Donc bon, après c'est un engagement pour un an, donc voilà. Enfin, peut-être que ça portera ses fruits pour l'été prochain. Hein, je sais pas.
Alors, pour parler un peu plus concret, est-ce que tu peux nous décrire ta journée type, ton organisation au quotidien ?
Alors, ça va vraiment être... J'ai un petit peu essayé de réfléchir à... Alors, une semaine, pour moi, c'est plutôt une semaine type, puisque étant un gîte, voilà, les rotations se font ou à la semaine ou au week-end, dans mon cas. Donc, on va dire que j'ai en tout cas une... grosse journée de nettoyage du gîte. Donc, je compte 8 heures à peu près. Et autant pour la partie gestion commerciale. Donc, c'est vraiment les deux gros postes. Donc, quand je dis gestion commerciale, c'est tout le temps que je passe à l'ordinateur, finalement, à mettre à jour des informations, à suivre les mails, la promotion sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout le temps que je passe à l'ordinateur. L'aspect financier, comptabilité. Même si en comptabilité, j'ai pas grand-chose parce que j'ai choisi d'être auto-entrepreneur. Donc voilà, c'est une comptabilité très légère.
Est-ce que pour l'entretien du linge, tu sous-traites ou c'est toi qui le gère?
Ah oui, le linge, ça aussi, ça prend du temps. Oui, d'ailleurs, j'avais essayé de calculer, je compte une bonne demi-journée pour le linge du gîte. J'ai 5 lits, donc 5 paires de draps, les serviettes de toilette, tout le linge, quoi. Pour l'instant, je le fais. C'est vrai que j'ai investi dans du linge de très belle qualité. Donc, en tout cas, je ne le ferai pas sous-traiter par une blanchisserie. Voilà. Si je le fais sous-traiter, ça sera peut-être par un particulier ou le jour où je me sentirai débordée.
Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels tu aimerais de l'aide, justement ?
Oui, le ménage. Et je suis à la recherche, je recherche Suzanne désespérément.
Tu en profites, tu passes une petite annonce auprès des auditeurs.
On a vraiment écumé toutes les connaissances qu'on avait, les personnes auxquelles on pensait, les personnes qui m'ont, qui m'ont donné des noms, donc il n'y a rien qui a abouti en fait. Et là, cet après-midi, tout à l'heure, je dois rencontrer ma voisine qui fait du ménage. Voilà, c'est son métier, mais qui a que le mercredi de libre. Donc voilà, il faut qu'on arrive. Enfin, si on arrive à trouver un accord, un arrangement. Enfin, je sais pas comment. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que en principe. En début d'année prochaine, je vais travailler à l'épicerie de mon CUC et je travaillerai du mercredi au samedi, donc à temps plein. Et donc, voilà, le ménage, ça sera plus possible, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas tenir le coup physiquement.
Donc, ce serait plus pour déléguer complètement cette partie-là plutôt que d'avoir un renfort.
Oui. Je sais pas encore. Je te dirai ça quand j'aurai la solution. J'aimerais pouvoir le déléguer, mais entièrement. Mais je pense que ça va prendre du temps. Parce que c'est vrai que, moi, c'est quelque chose que j'avais. Enfin, je connaissais pas nettoyage des gîtes. Il faut être. Enfin, c'est super physique. Il faut être très rigoureux, méticuleux, organisé. Ça demande beaucoup de qualité. Et donc, il faut trouver vraiment la perle, enfin, c'est la personne qui a toutes ses compétences, quoi.
Et en parlant de qualité, justement, quelles sont les qualités indispensables, selon toi, à avoir pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale ?
Alors, Il faut, je dirais, avoir le sens de l'accueil, mais bon, ça c'est évident, aimer recevoir les gens, aimer partager, parce que, pour moi c'est la base, hein, la maison, c'est un peu la mienne, donc il faut aimer partager déjà sa maison avec les gens. Il faut être bienveillant, il faut être disponible. Il faut être organisé. Je rigole parce que c'est pas forcément une de mes qualités. il faut avoir la forme physique. Ça, vraiment, c'est quelque chose. Il faut être en bonne forme.
Est-ce que tu aurais un conseil ou même un secret à nous donner pour bien séparer vie pro et vie perso?
Je ne l'ai pas trouvé encore.
Bon, alors ce sera ce sera pour un prochain épisode.
J'écouterai les prochains podcasts.
Mais c'est souvent la même réponse qu'on me donne.
ceci dit, je mesure quand même ma réponse parce que nous, notre maison est quand même, c'est pas chez nous. Donc, quand même, j'exagère, parce que c'est pas comme si je tenais une chambre d'hôte ou quand je quitte le gîte. Mais bon, il y a toute la partie, finalement, administrative que je fais depuis la maison. Le linge, c'est à la maison, donc j'ai souvent... ma tête, elle est au gîte, quoi.
Mais la charge mentale est plutôt...
Il faut être disponible, donc... voilà, moi, si les gens m'appellent... Ça m'est arrivé à 10h30 du soir parce qu'ils croyaient qu'il y avait le feu à la maison. J'ai répondu parce que je me suis dit quand même, pour qu'ils m'appellent à 10h30, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, j'ai pas une ligne pro, une ligne perso sur mon téléphone, quoi. Mais pour l'instant, ça, c'est pas un problème pour moi.
Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu t'es confrontée?
Plutôt, je dirais, je suis quelqu'un qui a du mal à gérer les conflits. Donc, de ce fait, j'essaie vraiment d'anticiper le maximum de choses pour éviter qu'il y en ait. Ma priorité, c'est vraiment que le client il soit vraiment satisfait, content, quoi, et que j'ai pas de reproches. Mais cet été, voilà, j'ai des hôtes qui ont écourté leur séjour parce qu'elles ont vu des souris dans la maison. Et j'avoue que ça m'a contrariée. Voilà. Mais du coup, bon, j'ai quand même retenu des leçons de cet incident. Et du coup, j'ai modifié mes conditions générales de vente. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir partagé tes conseils. Et j'ai révisé quelques petits points sur mes conditions générales de vente de façon à ce que je sois pas confrontée de nouveau à ce genre d'incident, quoi. Mais pour moi, c'est la chose que j'appréhende le plus, c'est le client pas content, Parce que ça me touche personnellement, en fait.
Oui, il y a un besoin de distance à prendre aussi.
Voilà, en fait, je suis quelqu'un qui... Voilà, je ne sais pas trop gérer les situations de conflit. Non, je ne gère pas, en fait. C'est pour ça que j'essaie d'anticiper le plus de choses que je peux.
Et à contrario, quel souvenir te donne immédiatement le sourire lorsque tu y repenses?
Une de mes premières réservations, enfin il y en a plusieurs, mais les premières réservations, enfin les premiers locataires, je dirais, aussi parce que bon, c'était nouveau et du coup, je dirais qu'il y en a deux, c'est le slip que j'ai retrouvé au fond du bain nordique suite à la taille de 8 rugbyman.
On peut repasser une annonce d'ailleurs, hein, si quelqu'un a perdu son slip taille M.
Plutôt XL, c'est les rugbyman. Donc, ouais, bon, ça, on en a rigolé. Bon, mais plus que de ça, d'ailleurs, suite à leur passage, c'était assez anecdotique. Donc, mes premiers ouais, clients, donc, j'avais une pression monstre. Donc, la dame, quand on fait, tu sais, avant de partir, on fait un petit peu le point sur ce qu'ils ont aimé, tout ça. Et en fait, elle me dit, je dois vous faire remarquer que, en fait, vos couettes, elles font du bruit.
Il y a pire.
Voilà, donc, bon, je dis, si c'est que ça, ça va. Si les couettes, elles font du bruit. Non, après, bon, c'est toujours un plaisir. Enfin, moi, ça me nourrit beaucoup au niveau de la confiance et de la motivation et de l'envie d'en faire toujours plus. C'est le feedback des clients, quoi. Ça me nourrit énormément.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand même de regretter votre choix de créer ce gîte?
Non, pour l'instant, non, pas du tout.
Est-ce que tu es confiante pour l'avenir avec la crise du Covid et...
Oui, alors justement, sans faire exprès finalement, c'est vrai que notre gîte, en fait, il s'inscrit vraiment, il répond plutôt vraiment aux besoins que les gens ont aujourd'hui. De se retrouver dans des endroits calmes, dans la nature, pas forcément le côté écologique, parce que je pense pas que ce soit vraiment un critère déclencheur de réservation pour mon gîte, en tout cas, même s'il l'est. Mais voilà, c'est ce besoin de vivre quelque chose de différent. Et tout en étant pas très loin de chez eux, parce que c'est vrai que moi j'ai, en tout cas depuis le mois de septembre, j'ai une grosse clientèle qui vient, qui fait pas plus de 200 km pour venir, quoi. C'est Toulouse, Bordeaux principalement.
On revient à un tourisme plus local.
Oui, voilà. Du coup, je suis quand même... assez confiante pour l'avenir du gîte, parce que voilà, sans vraiment calculer quoi que ce soit, il s'inscrit dans cette démarche, quoi.
Aurais-tu 3 conseils à donner à quelqu'un qui serait tout juste en phase de réflexion?
Alors, je dirais le premier pour moi, puisque j'ai failli passer à côté, c'est de vraiment bien établir son business plan, parce que ça vraiment, pour moi, ça, c'est ce qui donne de la crédibilité à son projet, pour soi, de la crédibilité envers soi-même, mais aussi envers les autres, parce que c'est vrai que moi, souvent, on m'a dit, mais tu crois que c'est viable, ton truc? Tu crois que tu vas pouvoir en vivre? Et donc, une fois que j'ai fait mon business plan, je dis, oui, bien sûr. Si je fais vraiment les choses de façon pro, voilà, ça marchera et j'arriverai à me dégager un salaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, il faut soigner sa forme physique, hein, parce qu'il faut avoir tout le temps de la pêche. Donc voilà, il faut prendre soin de soi aussi par ailleurs, c'est ce que je veux dire. Et après, toujours avoir le sourire, quoi. Et faire, il faut faire cette activité par passion, quoi. Je dirais avec beaucoup de passion et de avec le cœur, quoi.
Nous arrivons à la fin de cette interview. J'aurais encore 2 petites questions. En ce moment, est-ce qu'il y a un gîte ou une maison d'hôte même qui te fait de l'œil et qui te donne envie de faire une valise et de partir en week-end?
Oui, en fait, c'est marrant parce que depuis longtemps, je pense que vraiment depuis le début de mon projet, je suis un gîte qui est vraiment très inspirant et j'adorerais pouvoir y poser mes valises, plus que pour quelques jours d'ailleurs. C'est le Mas de Saribou, je crois que c'est en Ardèche.
Oui, Annick.
Et j'adore cet endroit. Le jardin est tout juste extraordinaire. Et la piscine naturelle, enfin voilà, c'est... Et puis les propriétaires ont l'air vraiment adorables. Voilà, j'aimerais, c'est des personnes avec qui j'aimerais beaucoup échanger. Voilà.
Par quel moyen les auditeurs peuvent-ils te contacter ?
Alors, donc, vous pouvez aller sur le site donc leperchoirducquercy.fr, sur la page Instagram, donc qui porte le même nom, le perchoir du Quercy. La page Facebook, mais bon, en allant sur le site, après, il y a tous les liens pour Instagram et pour Facebook. Et il y a toutes mes coordonnées. Quoi.
Est-ce qu'il y aurait une musique qui représente le mieux ton parcours ou même l'esprit du perchoir ?
C'est vraiment parce que de suite, quand j'ai préparé, quand j'ai vu cette question, j'ai pensé à Hakuna Matata.
Ah oui !
Hakuna Matata ! Mais quelle phrase magnifique !
Hakuna Matata.
Je suis une fan de Disney et que quand j'entends cette chanson, ça me donne la patate et puis voilà, ça me représente pas mal aussi.
Parfait, merci beaucoup Nathalie. Écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci encore.
Allez, au revoir Laura.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, @lesclésdugite, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode, et bien plus encore. À très vite!
Hakuna Matata.